Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous psycho. Et je suis aujourd'hui en compagnie de Christine Calonne, psychologue. Christine, bonjour.
Bonjour Émilie.
Merci de nous faire le plaisir d'être à nouveau avec nous. Nous allons parler d'un sujet souvent méconnu et sous-estimé, la mythomanie. C'est pourquoi il nous fallait avoir l'expertise d'une professionnelle. Alors, cette maladie peut avoir des répercussions profondes sur la vie quotidienne et faire de nombreux dégâts dans les relations sociales. Tout d'abord, j'aimerais que nous apportions une définition claire à la mythomanie. Quels sont les signes et symptômes de la mythomanie et comment le différencier d'autres troubles psychologiques?
Alors, la mythomanie, c'est une tendance compulsive à inventer une réalité pour fuir la réalité et pour ne pas ressentir des chocs émotionnels du passé, des traumatismes du passé. Donc, c'est une protection contre une souffrance insupportable.
D'accord. Et est-ce que le mythomane est conscient de sa maladie? Est-ce qu'il sait qu'il ment?
Alors, contrairement au menteur, qui lui peut manipuler avec des intentions claires d'exploiter l'autre, d'obtenir ce qu'il veut, le mythomane, lui, n'est pas conscient de ces affabulations répétées et importantes, parce que justement, c'est lié à un choc émotionnel et donc c'est quelque chose qui est là, c'est constitué plus fort que lui et qui est vraiment compulsif.
D'accord, donc ce n'est pas non plus un manipulateur. Est-ce qu'il a des moments de lucidité?
Oui, ça peut arriver qu'à force, évidemment, d'inventer une nouvelle réalité, il puisse se perdre dans ses mensonges et qu'il soit confronté par son entourage à certaines incohérences. Et à ce moment-là, petit à petit, parfois, il peut accepter qu'il y a un problème, mais pas toujours. Hein. Donc là, il peut y avoir des moments de lucidité, mais ça peut aussi ne pas arriver.
Très bien. Du coup, si j'ai bien compris, donc on ne naît pas mythomane, on le devient, c'est ça?
Exactement. Hein, c'est vraiment une conséquence de choc traumatique.
D'accord. Oui, parmi les causes, donc ça reste vraiment lié à chaque fois à un traumatisme particulier.
Oui, oui, oui. Donc, par exemple, ça peut être une agression. Physique, sexuel, ça peut être une perte insupportable pour la personne, que ce soit la perte de son travail, la perte d'un proche, voilà, toutes sortes de chocs émotionnels que la personne ne peut pas, auxquels elle ne peut pas faire face.
D'accord. Quels sont les critères qui peuvent être utilisés pour diagnostiquer, la mythomanie de manière fiable? Parce que j'imagine que ce n'est pas toujours simple.
Oui, donc on a tendance trop vite à traiter quelqu'un de mytho, entre guillemets, en confondant ça avec un mensonge. Et donc ça, c'est vraiment important de tenir compte comme critère du fait que les mensonges, les affabulations sont répétées, donc elles sont compulsives, la personne le fait, c'est plus fort qu'elle, et il n'y a pas de conscience en général de ce qui se passe, donc de ces mensonges, donc il n'y a pas de visée manipulatoire au sens d'intentionnalité pour finalement obtenir ce qu'on veut au détriment de l'autre, ce qui est le cas, les mensonges dans d'autres profils de personnalité où là, par exemple, un individu narcissique pathologique peut utiliser le mensonge pour exploiter l'autre, le dominer et donc exercer une emprise. Là, c'est vraiment un mensonge intentionnel et qui n'est pas aussi compulsif que l'on peut le voir chez quelqu'un qui souffre de mythomanie. Donc ça, c'est des signes vraiment important à prendre en considération et le fait que ça entre vraiment dans tous les détails de la vie de tous les jours. La personne qui souffre de mythomanie, elle se reconstruit une réalité. Bon, c'est très différent de quelqu'un qui fait des petits mensonges de temps en temps avec une visée bien particulière.
D'accord. Et une fois qu'on a diagnostiqué cela, est-ce que ça se soigne?
La mythomanie ne se soigne pas facilement parce que justement, souvent, la personne mythomane n'est pas consciente de sa souffrance et donc elle est dans le déni. Et si on va faire intrusion, je veux dire, dans son monde imaginaire, ça va être vécu très douloureusement et ça peut même redéclencher le choc traumatique. Et donc, c'est vraiment important d'être dans la bienveillance, l'écoute, de ne pas être intrusif avec la personne pour ne pas justement retraumatiser la personne. C'est surtout essentiel finalement d'encourager la personne à se confier, et à un moment donné, dans ses confidences, bah, elle peut faire face elle-même à ses incohérences. Et alors là, on peut l'encourager à consulter, à faire un travail thérapeutique pour essayer de comprendre d'où viennent ces incohérences, est-ce qu'il y a des choses dans son passé qui ont pu la traumatiser. Donc, ça se fait vraiment en douceur. Et là, l'accompagnement thérapeutique est très utile. Parfois, il est nécessaire de prescrire des antipsychotiques si la personne est vraiment hors de la réalité et que ça peut vraiment nuire à son entourage. Ben il est nécessaire parfois de recourir à une médication, et les psychiatres prescrivent des antipsychotiques dans ces cas-là. Mais en tout cas, il est très important de bien différencier la mythomanie, donc de troubles de la personnalité. Ça peut s'associer à un trouble de la personnalité. Donc, par exemple, on retrouve souvent ça dans le trouble borderline. Donc, parce que la personne qui a un trouble borderline souffre d'un trouble de l'identité et de traumatisme. D'ailleurs, c'est la différence avec la bipolarité. Hein, donc, les personnalités borderline, vraiment se sont construites sur base de traumas dans l'enfance. Et ces traumas se sont accumulés et donc ont constitué, font partie intégrante du trouble de la personnalité borderline, donc ce qui est un trouble de l'identité, avec donc un questionnement identitaire permanent et un vide intérieur et une perte d'estime de soi. Qui est lié à des traumas, donc des agressions violentes ou des négligences émotionnelles, affectives. Et dans ce contexte-là, évidemment, on peut retrouver la mythomanie, qui est alors finalement une fuite de la réalité face à ces traumas qui ont constitué, qui ont fait partie intégrante de la construction de la personnalité borderline. Et donc, c'est une façon finalement de compenser un manque d'estime de soi.
D'accord.
On retrouve ça dans les signes caractéristiques, c'est que la personne qui souffre de mythomanie a un déficit d'estime de soi, et ce déficit d'estime de soi est compensé par cette reconstruction de la réalité dans le but soit de se revaloriser, soit de se présenter en victime finalement de ce qui lui est arrivé. Et donc, dans les deux cas, c'est une façon de compenser une blessure émotionnelle importante, mais dont la personne n'a pas nécessairement conscience. Et c'est un mécanisme finalement de protection face à un choc insupportable.
D'accord. Vous l'avez abordé tout à l'heure, donc pour se faire suivre quand on souffre de mythomanie, donc il y a la thérapie, il y a aussi la prise éventuelle de médicaments. La personne qui souffre de mythomanie, est-ce qu'elle peut, quand elle en a conscience, apprendre à gérer justement cela au quotidien, ou est-ce que c'est vraiment de la prise de médicaments et de la thérapie, ou est-ce qu'il y a d'autres petites choses qu'elle peut faire?
Bien, je pense que justement, en parlant de ce qui lui est arrivé, elle peut se reconnecter à son vécu, à sa souffrance. Et donc là, on a des approches aujourd'hui des neurosciences qui permettent de retrouver la sécurité intérieure, l'apaisement, la confiance en soi. Hein, donc moi, je pratique la thérapie polyvagale, donc où on apprend à la personne à réguler son système nerveux pour que son système nerveux s'apaise, puisque c'est un choc du passé. C'est comme si son système nerveux, il était toujours dans le passé, hein, donc une partie de la personne traumatisée est toujours dans le passé, enfermée dans son choc émotionnel, et on peut apprendre à vivre dans le présent et donc à bien faire la différence entre ce qui nous est arrivé dans le passé et maintenant être ici, maintenant en sécurité. Et donc d'acquérir en état de sécurité des ressources pour retrouver la confiance en soi, l'estime de soi. Tout ça, on peut travailler. Ça, c'est pas quelque chose de définitif. Si on a un choc émotionnel dans son histoire, c'est pas quelque chose d'aujourd'hui, de rédhibitoire, comme si on était condamné à vie. Aujourd'hui, il y a des approches thérapeutiques des traumas, des chocs émotionnels, et qui peuvent vraiment aider à se reconstruire.
Ça, c'est effectivement la bonne nouvelle. Donc, ça n'est pas une créativité et il y a aujourd'hui des solutions, comme vous venez très bien de l'expliquer. Vous avez évoqué tout à l'heure les proches, parce qu'évidemment, quand on a dans son cercle une personne qui souffre de mythomanie, c'est loin d'être facile également pour les proches. Vous avez parlé effectivement donc de ne pas brusquer la personne, mais est-ce qu'il y a un autre moyen justement d'apporter un soutien efficace pour participer au processus de guérison de cette personne en souffrance?
Oui, donc c'est, je pense, de ne pas juger, d'être dans l'empathie, d'essayer de soutenir la personne dans la compréhension de ce qu'elle ressent et de faire des liens, mais sans de faire des liens entre des choses qu'elle a dites et qui ne correspondent pas à la réalité, mais sans, je veux dire, sans forcer la compréhension. Bah, si le lien ne se fait pas, il ne se fait pas, et donc voilà, c'est ça le, je pense, qui est très important. Et donc l'accompagnement de l'entourage peut être utile dans ce processus de reconstruction de soi. Oui.
Et j'imagine aussi que cet entourage proche doit quand même trouver aussi un moyen peut-être de se protéger justement face à ces divers mensonges.
Oui, là, pour se protéger, je pense en effet que c'est important d'abord de comprendre ce que c'est la mythomanie, et donc ça permet de ne pas juger, mais en même temps, bien de faire en sorte d'éviter des conséquences négatives pour toi, hein, donc que ce soit au niveau financier ou au niveau de sa réputation, de ses liens sociaux. Donc là, c'est important de comprendre ce qu'est la mythomanie, donc pour pouvoir faire face à ces conséquences négatives et se protéger.
Très bien, merci beaucoup. Du coup, si on doit un petit peu résumer, donc la mythomanie, donc on ne naît pas mythomane, mais on le devient. C'est issu d'un traumatisme profond. Souvent, donc il y a un profond manque d'estime de soi. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut aussi travailler sur cet axe-là, en tous les cas, pour peut-être mieux vivre. Parce que est-ce qu'on peut ne plus l'être du tout, un mythomane ou,
Oui, je pense qu'avec un travail thérapeutique approfondi sur les traumas, on peut s'en sortir. Et donc, je pense que dans le trauma, c'est vraiment la notion d'insécurité qui est essentielle. Et je pense que si on est à ce point-là, dans la fuite de la réalité, c'est qu'on souffre d'une grande insécurité. Et donc, c'est cette insécurité qui est essentielle à travailler, en plus de l'estime de soi. Je veux dire, l'estime de soi est là. La perte d'estime de soi est la conséquence du choc
de sécurité.
Voilà, de la sécurité.
D'accord.
Donc, d'abord travailler la sécurité. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a des approches plus spécialisées des traumas qui peuvent aider vraiment les personnes qui ont cette problématique, parce que l'insécurité est au cœur du choc traumatique. Donc, même le sentiment de danger pour sa propre survie. C'est un mécanisme de survie. La fuite de la réalité, c'est un mécanisme de survie. Et donc, si on comprend ça, y a des approches plus adaptées pour travailler sur les traumas et aider la personne à retrouver la connexion à la vie plutôt que d'être dans des mécanismes de survie. Et la fuite de la réalité, c'est un mécanisme de survie. Hein, donc, dans les neurosciences, on a découvert qu'il y avait trois mécanismes de survie: combattre, fuir et se figer. Donc, la fuite, c'est vraiment un des trois mécanismes de survie, fuite de la réalité dans la mythomanie.
Très bien. Merci beaucoup pour ces précisions. Et donc, voilà, ce qu'il faut retenir quand même, c'est qu'on peut très bien avoir des thérapies adaptées pour aider à sortir de cela. Et évidemment, si vous avez dans votre cercle proche une personne souffrant de mythomanie, il est possible de l'aider, donc on l'a dit, hein, à prendre conscience de son trouble et pour l'inciter à consulter. Donc, n'hésitez pas pour cela à demander conseil à un professionnel. Et par ailleurs, n'oubliez pas qu'il est essentiel pour vous de vous protéger, parce que les mensonges à répétition sur le long terme, ça peut également impacter, vous l'avez dit très bien, Christine, votre propre santé mentale. Donc, un accompagnement psychologique permet aussi de comprendre le mécanisme, de trouver les bons réflexes pour s'en protéger ou réparer les maux qui sont malheureusement parfois déjà là. Christine Calonne, vous proposez ce type d'accompagnement en consultation, que ce soit donc en cabinet ou à distance grâce à la visio. Comment vous contactez?
Eh bien, vous avez mon site internet psychothérapie-calonne.be, et donc là, peut remplir le formulaire contact, il y a un numéro de téléphone, on peut me contacter de cette façon, c'est le plus facile.
D'accord. Eh bien, nous remettrons également ces informations-là dans le descriptif de la vidéo. Un grand merci pour votre intervention, Christine, pour nous avoir une nouvelle fois éclairé sur un sujet pas évident. Toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt.